Bonjour, pépinière de talent, Gilles Losorois, 90.7 sur RCN, pour une nouvelle émission, une émission estivale consacrée à un programme estival. Émission internationale, vous allez entendre les légers accents de mes invités cet après-midi, parce que cette émission sera consacrée au cours d'été qui se tient comme chaque année depuis les années 1930. Ce cours d'été est une association indépendante qui est hébergée par la fac de droit pendant le mois de juillet. Et depuis les années 1930, eh bien, des générations d'étudiants sont venus découvrir, parfaire leur goût pour la langue française. Et cette année encore, une centaine d'étudiants a séjourné à Nancy pendant 4 semaines avec un programme très complet, à la fois linguistique et culturel. Et je vous propose d'entendre quelques-uns de ces participants, je ne peux pas dire uniquement étudiants, parce que j'ai à ma table cet après-midi à la fois des enseignants et des étudiants. Alors je vais peut-être leur demander de se présenter dans un premier temps, et puis après, avant de parler de ce cours d'été, de ce qu'ils y font, de ce qu'ils y trouvent, de ce qu'ils y apprécient ou pas, je leur demanderai d'abord peut-être de nous dire d'où ils viennent. Mais tout d'abord, les présentations peut-être. Allez, qui veut commencer? Alors, peu importe, allons-y.
Bonjour, je m'appelle Georgiana, je suis roumaine et je suis ici pour améliorer ma langue française.
Merci Georgiana.
Bonjour, je suis Cosette Ouerbe.
Parle bien face au micro, Cosette. Voilà.
Oui. Je suis libanaise et aussi je suis là pour améliorer ma langue française.
Parfait, merci.
Bonjour, je m'appelle Galina et je suis venue de Russie avec 8 élèves qui améliorent leur français.
Voilà, donc Galina est professeure de français.
Ah oui, et je suis ici pour la 3e fois.
C'est vrai, c'est une habituée.
Et bonjour, je m'appelle Charles, je viens des États-Unis, je fais partie maintenant de l'équipe au cours d'été. Avant, j'étais intervenant, je menais des groupes d'étudiants américains, et maintenant j'ai le plaisir de participer au cours en tant que professeur.
Voilà, et conférencier.
Ah oui, voilà. Et conférencière. Merci.
Merci, Charles. Voilà, donc tous les quatre, vous venez, certains depuis très longtemps, donc 3 ans Galina. Et Charles, ça fait combien de temps?
Depuis, on va dire, 2004, si mes souvenirs sont bons.
Bien, donc effectivement, ça fait quelques années. Toutes les deux, Georgiana et Cosette, c'est votre premier séjour à Nancy?
Oui, oui.
Bon, alors, est-ce que vous pouvez peut-être les uns et les autres nous dire d'où vous venez, de quel pays, de quelle région, de quelle ville peut-être? Ça fait toujours rêver d'entendre parler avec un accent étranger et d'entendre parler de lieux qu'on ne connaît pas et qu'on imagine. Alors, qui va commencer?
Ouais,
Georgiana,
moi,
allez,
moi.
La Roumanie donc.
Donc la Roumanie, je viens d'un petit ville qui s'appelle Alexandria. C'est très loin de notre capitale, Bucarest. C'est aussi très proche de Bulgarie aussi. Donc, on peut voyager facilement en Bulgarie, à Grèce et à Turquie. Mais j'habite vraiment en Angleterre. Il y a 5 ans que je suis allée en Angleterre pour faire mes études là. J'étudie la langue française, l'allemand et l'espagnol.
Bon, tu es très européenne.
Ouais. J'aime beaucoup voyager.
Ouais, sans doute.
Ouais.
Alors, ensuite, qui veut nous présenter
Oui, la Libanaise.
La Libanaise.
Moi, je viens de nord de Liban.
Il faut que la Libanaise, elle parle bien près du micro.
Oui, pardon. Voilà. D'une ville qui s'appelle Pchali. C'est en A. Oui. Je ne sais pas, c'est une belle ville, un peu loin de Beyrouth, 1h30. Mais j'habite à Beyrouth, j'étudie à Beyrouth. Et...
Tu étudies dans quel domaine?
Le droit. Je continue mon master en droit.
Très bien.
Ouais.
Merci Cosette.
Et comme la Russie est très immense, très souvent on dit que nous, moi et mes élèves, nous habitons dont juste derrière le bout du monde, parce que c'est, si vous pouvez imaginer la carte, c'est l'Eurasie se termine. Et entre Japon et l'Eurasie, il y a une île qui s'appelle Sakhalin. Mais notre île est très liée à la France parce que nous avons le détroit Lapérouse. Parce que Lapérouse nous a visités en 18e siècle et nous sommes en fiers. Et nous avons sur notre carte beaucoup de noms français comme Monieron, Crillon, etc.
Voilà. Ce qui explique aussi la francophilie de nos amis de Sakhalin.
Ah oui, peut-être.
Ouais. Peut-être pour se donner une idée de l'éloignement de Sakhalin, le décalage horaire entre Sakhalin et la France.
9h.
9h, voilà.
Maintenant, c'est déjà le soir chez nous.
Voilà, voilà. Bon, c'est impressionnant. Plus proche de nous, si je puis dire, les États-Unis.
Oui, plus proche, mais quand même à 6 heures de décalage, quand même. Moi, j'habite dans une ville qui s'appelle Indiana. C'est pas trop loin d'une autre ville, enfin une ville majeure, qui s'appelle Pittsburgh, donc en Pennsylvanie, à l'est des États-Unis. Donc, j'aime dire pour les amis en Europe, que nous sommes au sud de la grande ville de New York et puis au nord de la capitale, Washington. Oui. Et voilà, ça explique tout.
C'est une façon de positionner les choses.
Oui, voilà.
Merci Charles. Alors, je voudrais que vous nous disiez aussi, que vous racontiez un petit peu aux auditeurs ce qui vous a motivé à venir ou ce qui présente pour vous un intérêt dans le fait de venir étudier la langue française, parce que on ne pose pas la question à quelqu'un de savoir pourquoi il étudie l'anglais, ça semble aller de soi, mais étudier le français, s'intéresser à la culture française, ça ne va pas forcément de soi. Donc pour les uns et les autres, qu'est-ce qui a provoqué votre intérêt pour la langue et la culture française ? On n'est pas obligé de recommencer. Voilà, vas-y,
oui, Cosette. Comme le Liban, c'est un pays francophone, alors nous sommes obligés d'apprendre le français de l'école, de l'âge de 4 ans, 5 ans. Donc, mais pour moi, parce que j'ai étudié le droit en arabe, ça fait 5 ans, donc j'ai oublié un peu, je ne fais pas la pratique au Liban aussi. J'ai décidé de venir ici pour améliorer, pour parler, pour pratiquer la langue avant d'écrire le mémoire en français. Parce
D'accord.
que c'est bien sûr avantageux pour nous d'écrire en français, d'étudier en France, parce que nous sommes francophones.
Oui.
Ouais.
Mais alors, est-ce qu'au Liban, le français est très parlé ou pas? Pas beaucoup.
Oui, on parle le français. On ne dit pas des mots comme bonjour, bonsoir, bonne nuit. Tout est en français.
Oui.
Il y a des mots qu'on utilise chaque jour, c'est en français. On ne le savait pas en arabe.
D'accord.
Ouais,
d'accord. Et les deux langues, le français et l'arabe, sont parlées de manière à peu près équivalente ou le français plutôt dans certaines circonstances, l'arabe dans d'autres circonstances? Tu ne sais pas? Non. Mais on parle les deux langues, en tout cas.
Oui, ouais. Oui, oui, bien sûr.
D'accord.
Maintenant, l'anglais, c'est un peu domine au Liban, parce que c'est le business language, mais on ne peut pas nier le rôle ou bien la langue française chez nous.
Très bien.
Très important. Ouais.
Merci.
Peut-être moi.
Galina, bien sûr.
Nous avons une seule école dans notre ville où on apprend le français comme la langue, comme deuxième langue étrangère, parce que la première langue c'est anglais bien sûr. Mais malgré ce que nous habitons une île, nous avons le club français parce que notre île est très riche en pétrole, en gaz, et nous avons beaucoup de sociétés étrangères qui font leur travail là-bas. Et c'est Si tu veux avoir un bon salaire, on te demande quelle langue étrangère tu connais. Et si tu dis anglais, on répond non, anglais ce n'est pas la langue étrangère, c'est la langue de travail. Quelle langue étrangère vous connaissez encore? Et c'est pourquoi on apprend chez nous le français, le japonais, le chinois, parce qu'il faut être polyglotte pour avoir un bon travail, un bon salaire. Et pour montrer que tu connais la langue, tu dois avoir quelques certificats ou bien un diplôme. Et mes élèves passent chaque printemps le DELF. On commence par le DELF A1, A2, et puis vers la fin d'études, c'est B2. Mais comme c'est la deuxième langue étrangère, nous n'avons que 2 heures par semaine, c'est-à-dire 68 heures pendant une année scolaire. Mais quand on vient ici à Nancy au cours d'été, c'est presque 2 années d'études. Et les élèves progressent rapidement. Les animateurs me disent que les élèves ont progressé déjà. Les profs disent qu'ils progressent et même ils commencent à réfléchir en français. Voilà.
Bon, c'est magnifique.
Et la cause.
Voilà. Mais je crois qu'il y a peut-être aussi un attachement particulier à la langue française en Russie. Il me semble que moi, quand je suis allé en Russie et que j'ai rencontré des professeurs de français, j'ai trouvé qu'ils avaient une démarche militante par rapport à la langue française. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'ils défendaient souvent mieux que les Français défendent eux-mêmes leur langue.
Vous avez tout à fait raison, parce que nous avons une association des professeurs de français en Russie qui lutte, si on peut dire comme pour que la langue française se développe en Russie. Comme deuxième langue, troisième langue étrangère, mais on apprend le français. Et sur notre île, une seule école, mais on travaille énormément pour avoir les résultats, et parce que la Russie et la France est très liée par la culture. Vous savez, nos écrivains célèbres, Turgenev, Dostoïevski, Tchekhov, ils parlaient couramment français. Pushkin, il écrivait en français et en russe. Et il commençait à écrire ses vers en français d'abord, parce que pour lui, c'était plus facile. Voilà. Et il y a beaucoup de mots qui sont venus de français. Et on les utilise chez nous, dans notre langue maternelle. Mais vous savez, quand on parle de la langue française et de la France, nous, les profs, on voit que la langue française enrichit les élèves des éléments culturels. Et la langue anglaise, je n'ai rien contre, mais on l'apprend pour avoir un boulot. Et la langue française, on l'apprend pour le plaisir, peut-être même s'il est inutile pour le travail dans quelques sociétés. Cette fois, j'ai avec moi une adulte de 50 ans qui est prof de biologie et qui a commencé à étudier le français pour le plaisir parce qu'elle adore la France. La langue française, et voilà, elle est venue, elle a le niveau A1, mais maintenant, elle dit qu'elle va revenir.
Bon, c'est magnifique, encore une fois. Et moi, je confirme que tes élèves progressent très très vite et ont un excellent niveau, c'est-à-dire que tu fais état du nombre d'heures de cours qu'ils reçoivent à Sakhalin et du programme intensif qu'ils reçoivent ici, mais en arrivant ici, pour les avoir entendus souvent, je trouve qu'ils ont déjà un niveau extrêmement fort.
Ils sont très très motivés.
Oui, oui, oui. Et moi je suis toujours aussi très sensible à la qualité de la diction des élèves russes. Hein. Mmh. Bon.
On a des capacités.
Oui, bon, on n'en doute pas. Alors, Charles, maintenant, quand on est américain et qu'on parle une langue qui est parlée dans le monde entier, à quoi bon faire l'effort d'apprendre une langue aussi tordue que le français ?
Oh là 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 là. Bah alors, il faut dire que bon, c'est à la fois professionnel et personnel. Professionnel dans le sens que je suis professeur de français là-bas. Je viens à Nancy pour me ressourcer, pour prendre des idées nouvelles, avoir par exemple d'autres aspects de la culture française à présenter en cours quand je suis là-bas, parce que la France, c'est un pays qui évolue, c'est une culture qui est dynamique, et alors faire confiance toujours à des manuels académiques, ça a des limites. Alors donc, voilà pour le côté professionnel. Et donc, pour le côté personnel, ça fait un bout de temps que je viens à Nancy tous les ans. Nancy est devenue comme un deuxième chez moi. J'adore Nancy, j'adore la Lorraine. Donc, bah, voilà, tout est dit.
Bien, alors, une question complémentaire quand même par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui, au départ, t'a amené vers le français ? Parce que non seulement tu parles français comme un français, mais tu as fait certaines choses mieux, je dirais, ou en tout cas des choses que ne fait pas le commun du français. Tu t'es intéressé à notre théâtre classique et à Racine en particulier.
Oui.
Donc voilà, puisque je dis entre parenthèses que tu as fait ta thèse sur Racine.
Oui, hein, oui, c'est alors, exact. Bon, alors... Pour la petite histoire, j'ai commencé pour un Américain à l'âge de 12 ans. C'était des cours de français qui étaient, on va dire, obligatoires. Donc, on m'a imposé cela. Au départ, je ne voyais pas l'intérêt, comme beaucoup d'Américains. Mais j'ai eu la chance, à l'âge de 13 ou 14 ans, de faire la connaissance d'une famille québécoise, donc francophone. Et voilà, on a échangé des visites entre les familles. Et très vite, j'ai appris que le français, c'est une langue importante, quelque chose dont on peut se servir. Pour l'histoire de Racine, bon... Étant universitaire, je voulais faire des études supérieures en français, et on m'a conseillé de faire une thèse sur un thème classique. Et voilà, donc j'ai fait une thèse sur Racine. Mais il faut dire qu'avec le temps, c'est un aspect de la langue, de la littérature, de la civilisation dont je ne me suis pas beaucoup servi. Parce que, pour des raisons professionnelles, je me suis plus concentré sur la culture, la scène politique, et puis tout simplement l'apprentissage du français comme FLE.
Mmh. Ouais. Bien. Merci. Alors, je me tourne maintenant vers Georgiana, vers la Roumanie. Là encore, il y a une histoire culturelle riche entre la France et la Roumanie, historique déjà, la naissance même de la Roumanie, et puis culturelle aussi, puisque de nombreux artistes roumains ont enrichi les arts français. Bien sûr, on pense à Jean Ionesco, qui est un des plus connus, on peut citer Mircea Eliade, on peut citer Gerasim Luca, etc. Qu'est-ce qui fait que il y a quelques années, tu t'es mis à apprendre la langue française, en plus de toutes ces langues européennes que tu parles déjà?
Donc la Roumanie est aussi un pays francophone, et c'est grâce à ma mère que j'ai commencé à parler français, parce qu'elle a étudié la langue française et la langue russe. Parce que pendant le communisme, la langue française et la langue russe, ce sont les langues plus importantes pour les Roumains. Mon père seulement parle l'anglais et le français. Mais pour moi, c'était différent, parce que je trouve que la langue française, c'est une langue très romantique, très mélodique, très belle. C'est vrai que la grammaire, c'est très difficile, mais je veux dire que la langue française est une langue officielle pour les organisations internationales comme l'Union européenne. Donc pour moi, j'aimerais bien d'être interprète. Et pour moi, la langue française est très, très importante, peut-être plus importante que la langue anglaise. Donc moi, je suis ici pour essayer de parler couramment français. Et c'est bien, c'est vraiment bien. J'ai fait aussi le théâtre avec Monsieur Gilles. Et pour moi, c'était vraiment une expérience unique parce que j'ai jamais joué. Et j'ai trouvé que les mots et aussi la prononciation peut être vraiment difficile, mais on essaye et c'est bien d'essayer dans la vie beaucoup de choses différentes. Et aussi, je veux ajouter que c'est vrai, on a beaucoup d'artistes roumains qui ont vécu ici en France. Je veux vous donner aussi un exemple comme le atelier Brâncuș, oui, au centre Pompidou.
Alors, plus connu pour les Français sous le nom de Brâncuși, avec notre accent français, évidemment.
Oui, bien sûr, mais pour nous aussi, on a beaucoup des expositions en Roumanie, mais la plupart, c'est ici en France, c'est à Paris.
Oui, et il faut rappeler que Brâncuși voilà, est venu à Paris à pied.
Ouais.
Tellement la France, à une époque, a représenté une terre de fascination pour les artistes étrangers et roumains en particulier. Quand on est étranger en France, alors c'est peut-être plus vrai pour Georgiana et Cosette que pour Galina qui vient à Nancy pour la troisième fois et Charles pour la onzième à peu près,
oui, ça,
facilement.
Ça, oui.
Enfin onzième en tout cas, onzième cours d'été, mais d'autres occasions encore. Il est toujours intéressant pour les Français de voir le regard que portent les étrangers sur le pays ou sur la France, sur Nancy, parce que c'est un regard qui est un peu décentré. C'est-à-dire que nous, on est dans le bocal, donc on ne voit pas forcément ce qui s'y passe. Alors que vous nous voyez de l'extérieur, en quelque sorte. Vous nous voyez avec les yeux de votre culture. Et comment vous nous voyez, ou qu'est-ce qui vous surprend, ou vous intéresse, ou vous horripile peut-être chez nous? Comment vous voyez les Français?
Cosette. Nous sommes jaloux de les Français parce que vous vivez dans un pays très beau.
Liban est très beau.
Oui, mais chez nous, il y a un peu de corruption, la politique n'est pas très bonne,
Chez nous, elle est parfaite, il n'y a pas de corruption, les hommes politiques
c'est ce que nous sait,
sont d'une
au
transparence
Liban.
Absolue, et il n'y a jamais de scandale, vraiment, tous nos hommes politiques sont d'une honnêteté intégrale.
Les lois sont très correctes, les juges sont chez vous, je ne sais pas. Oui, il y a des fromages, des baguettes, tout ça.
Il n'y a pas de fromage au Liban?
Pas beaucoup.
Pas
non,
beaucoup. Il y a du très bon
très
vin.
Très différent. Oui, les vrais vins, c'est... Nous sommes OK.
Et alors, quel est le regard que tu portes sur la France? Je pose la question autrement. Est-ce qu'il y a une chose, depuis ton arrivée à Nancy, qui t'a marqué, qui t'a frappé?
J'aime l'architecture ici à Paris et à Nancy, c'est très vieille architecture. J'aime Place Stanislas, c'est très beau.
Oui.
La France est riche des immeubles, monuments, des
patrimoines.
Tu vois, tu trouves des choses très belle.
Oui. Est-ce qu'il y a une chose qui t'a amusé, par exemple, qui t'a fait rire ou qui t'a surpris dans le comportement des Français?
Maintenant, je...
Non, comme ça vient pas.
Bon, l'abréviation, chez vous.
L'utilisation des abréviations.
Oui, oui.
Ouais. Dans la langue orale ou...
Oui, dans la langue orale et dans toute...
Ouais,
dans la classe, en cours, on prend des abréviations que vous utilisez toujours chez vous.
D'accord.
Ouais.
Ah oui, tu vois, ça c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte.
On n'utilise pas des abréviations chez nous.
C'est vrai?
Ouais.
Bon. d'autres points de vue?
Si vous me permettez.
Ouais, Galina, bien sûr.
Je reviens pour la troisième fois avec mes élèves. Et avec mon mari, qui ne parle pas français, mais il adore la France, il a les vacances, et il préfère les passer ici. Ce qui m'attire à Nancy, c'est ce que je suis tranquille pour mes élèves. C'est calme, pas trop de voitures, pas trop de gens dans les rues, pas trop de jeunes qui font les bêtises et tout ça. C'est le côté qui me plaît beaucoup. Mm-hmm. Et ce qui m'a surpris cette fois, je souligne cette fois seulement, les Français fument trop. Et ils fument partout. On a été à la fête à Saint-Étienne. Il y avait des mamans avec des bébés dans les bras et la cigarette dans autre bras, à la main. Ce qui est interdit chez nous parce que d'abord, il faut penser aux enfants, à leur futur, etc. Et voilà, la santé, on ne pense jamais à ceux qui sont à côté et qui n'aiment pas la fumée. Chez nous, il y a des lieux spéciaux où on peut fumer, pas partout.
Oui.
Et ça me dérange un peu parce que je dis à mes élèves toujours que les Françaises sont sveltes. Et cette année, on remarque que les Françaises sont devenues plus grosses.
Est-ce que c'est parce qu'elles fument?
Oui, et il y a beaucoup de femmes, excusez-moi, mais qui ont trop de poids et qu'on fume trop. Et encore une chose que j'ai remarquée, parce que je suis professeure de français depuis 35 ans et je visite la France très souvent, que les Français, au lieu de boire un bon vin, boivent de la bière. Et c'est pas à la française, à mon avis. Ça m'étonne.
Ah, mais je pense qu'il y a, alors peut-être pour rebondir sur cet aspect du vin et de la bière, il y a le temps du vin et le temps de la bière. Et je pense qu'en cette période caniculaire, c'est vrai que les Français sont plus portés sur la bière quand on prend un verre au café ou qu'on veut se désaltérer. Mais je t'assure que pour le repas, le vin reste quand même
très bien.
Largement en tête des consommations. Mais par contre, ce que tu dis est intéressant parce que chez les jeunes, la consommation du vin est en net recul au profit de boissons alcoolisées et sucrées, du type cocktail par exemple. Mmh. Et il y a une sorte de méconnaissance du patrimoine viticole, je crois, qui s'installe.
Voilà. Et une chose peut-être, si je peux ajouter, c'était pour la première fois dans ma vie, en 2013, quand nous étions ici à Nancy pour la première fois. Et puis, on est resté pour une semaine à Paris. Et oui. C'était pour la première fois quand mes élèves ont dit « Ah, c'était mieux de rester à Nancy que venir à Paris ». J'étais surprise complètement. Et maintenant, avant d'aller à Nancy, on reste pour 2-3 jours à Paris pour faire Parc Astérix, pour visiter quelques monuments. Et puis, on vient à Nancy pour ne pas revenir à Paris, sauf avec école.
Avec l'excursion.
Avec les excursions et tout ça. Mais pour les fatiguer, et pour qu'il ne se souvienne rien, qu'il ne se rappelle de rien. Voilà.
D'accord. Bon.
C'est pourquoi mes élèves préfèrent Nancy à Paris. Et c'est très bien.
Eh bien, le nancéen que je suis en est enchanté. Et je note donc cette remarque. C'est vrai, quelque chose qui nous choque, qui nous choque moins, oui et non, parce que la question de la cigarette, c'est vrai que c'est un problème assez important. Depuis quelque temps, on n'est plus autorisé à fumer dans les lieux fermés, de moins en moins dans les lieux publics, mais c'est vrai que, bon, quand un endroit est aéré, les gens se sentent autorisés à fumer sans pour autant penser à leurs voisins. Et personnellement, je trouve aussi assez déplorable l'image d'une mère qui a un bébé dans un bras et une cigarette dans l'autre main. C'est vrai, ouais. Bon, quant aux Françaises, peut-être qu'il faut qu'elles se mettent un peu au sport ou qu'elles cessent de boire de la bière qui nuit peut-être à leur embonpoint.
Il y a un autre côté, quand on se promenait à Paris ou bien ici dans un parc,
oui.
On voit beaucoup de gens qui font du sport.
Oui,
Voilà.
C'est des étrangers peut-être.
J'espère que ce sont les Français.
Oui, il y en a aussi. Il y en a aussi. Ouais. Charles ?
Oui, enfin, je voulais répondre à quelques aspects de l'intervention de Galina, parce que bon, ça fait un bout de temps que je reviens régulièrement en France, et je pourrais dire que pour les fumeurs, pour moi personnellement, moi j'observe que les Français fument de moins en moins par rapport à il y a, on va dire, 20 ans.
C'est vrai.
Je vais me donner l'âge que j'ai. Effectivement, il fut un temps quand on fumait, par exemple, dans le métro. Et pour moi, qui fume pas, je trouvais l'air dans le métro à Paris irrespirable. Parce qu'il y avait tellement de gens qui fumaient et tout le monde fumait partout, dans les restaurants, même sur les terrasses des cafés. Ouais, c'était un peu difficile. Mais depuis que la loi a changé, je trouve que les Français fument de moins en moins. Pour les autres aspects, enfin, je pense que je vais laisser à d'autres experts de faire des commentaires. Mais sinon, pour moi, chaque fois que je viens en France, c'est un voyage de découverte, parce que je découvre des choses qui sont pour moi nouvelles, et j'explore des régions que je connais pas. Et j'ai toujours eu le sentiment que la France est un pays immense, parce que à chaque village, chaque région a son histoire. Et vraiment, je ne sais pas si, arrivé à mes peut-être 80 ans, j'aurai tout exploré. C'est vraiment vaste. Et l'autre chose, une dernière réaction, c'est que depuis le temps que je viens, je me suis fait un certain nombre d'amis dans la région, à Paris, et je trouve que l'accueil est toujours très chaleureux.
Oui,
et c'est une chose qui va à l'encontre du stéréotype du français qui est un peu, je sais pas, ronchon ou un peu difficile. Et je trouve que c'est tout à fait le contraire de ce stéréotype qui persiste malgré nous, les professeurs de français. Chez moi, il y a des gens qui disent « oui, le français est mal poli », mais moi, je trouve qu'au contraire, le français est très chaleureux, très accueillant.
Et oui, ça c'est aussi un regard qu'en tant que français, on a un peu de mal à avoir. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance aussi à trouver entre nous, les Français, que on n'est pas forcément très très poli et qu'on est volontiers râleur. Mais alors peut-être qu'on a le souci de bien recevoir les étrangers.
C'est peut-être ça.
Je vous propose, avant de continuer notre discussion, toujours dans Pépinière de Talent 90.7 sur RCN, une petite pause musicale. Alors écoutez bien, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, mais pas par cet interprète. En tout cas, c'est un grand monsieur de la chanson française qui a écrit ce que vous allez entendre, mais qui est chanté par un autre.
Nous sommes allongés sur l'herbe de l'été. Il est tard, on entend chanter des amoureux et des oiseaux.
On entend chuchoter le vent dans la campagne. On entend chanter la montagne.
J'ai ta main dans ma main. Je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux. Et partout où l'on ne voit
que la nuit, belle nuit, que ce ciel merveilleux qui fleurit tour à tour, tendre et mystérieux.
Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur. Et dis-moi qu'il n'est pas de plus charmant bonheur
que ses yeux dans le ciel, que ce ciel dans tes yeux,
que ta main qui joue avec ma main.
Je sais rien de toi, tu ne sais rien de moi. Nous ne sommes que deux vagabonds. Moi, fille des bois, toi, mauvais garçon.
Ta robe est déchirée, je n'ai plus de maison, je n'ai plus que la belle saison.
J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on ne voit
que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux qui fleurit tour à tour, tendre et mystérieux.
Viens plus près, mon amour,
ton cœur contre mon cœur.
Et dis-moi qu'il n'est pas le plus charmant bonheur
que ses yeux dans le ciel, que ce ciel dans tes yeux,
que ta main qui joue avec ma main.
L'interprète, ou plutôt les interprètes de cette chanson étaient Benjamin Biolay et Vanessa Paradis, et c'était une chanson de Charles Trenet. Alors, est-ce que vous connaissez Charles Trenet ?
Dans les manuels de français pour les lycéens, nous avons un sujet sur la musique française.
Oui.
Et on parle, on commence par les années 60.
Oui.
Et c'est pourquoi il y a un article sur Charles Trenet et on écoute la musique. Et voilà, maintenant je vais prendre cette version moderne.
Oui.
Parce que pour les élèves contemporains, c'est un peu toujours fatigant d'écouter quelque chose qui est vieux. Mais en. Version moderne.
Moderne, oui, bien sûr.
Je crois qu'ils vont l'aimer.
Bon. Et donc, je repose ma question à mes autres invités. Charles Trenet, Charles, je pense, oui, bien sûr.
Oui, oui.
Oui. Et pour les générations plus jeunes ?
Non.
Non.
Moi non, mais j'ai étudié un peu à la fac sur Benjamin Biolay.
D'accord.
Ouais. Bon, donc, j'y connais.
Vous connaissez peut-être les chansons de Charles Trenet qui ont été traduites en anglais, chantées de manière internationale. Je pense en particulier à l'une de ses plus importantes, plus connues chansons qui s'appelle La mer et qui a été traduite par Somewhere Beyond the Sea. Qui ouais. est, voilà, ouais. qui, voilà, ça c'est Charles Trenet. Et j'ai donc. Mis au programme parce qu'on le considère comme le père de la chanson française, un peu l'inventeur de la chanson française moderne, c'est-à-dire avec des textes très très poétiques, très bien écrits, et il a été le premier à utiliser, à être influencé par le jazz dans la chanson française. Et ce disque que vient de produire Benjamin Biolay met en avant précisément le jazz dans la composition musicale de Charles Trenet. Je trouve que c'est une grande réussite. On écoutera encore un autre morceau tout à l'heure. Voilà. Je voudrais maintenant qu'on parle plus précisément de votre programme à Nancy, de ce que vous y faites, du rythme qui est le vôtre, des activités qui sont les vôtres, et parmi ces activités, celles peut-être qui vous ont plus marqué, que vous garderez en mémoire.
Moi, ce que je préfère au cours d'été Nancy, et ce qui m'attire toujours, c'est la possibilité de faire un voyage dans une autre partie de France.
Oui.
En 2013, c'était Marseille, Provence, avec tous ces villages très beaux, avec la mer. L'année passée, c'était
le Mont Blanc.
Et c'était impressionnant. Chamonix, tout ça. Et cette année, les châteaux de la Loire, ce qu'on fait toujours autrement, des programmes à Paris et tout ça, et on a eu la possibilité de vivre à Blois, le lieu historique et tout ça. Et sauf les cours d'été, on essaie d'occuper les élèves par les choses culturelles. Et quand on a eu une journée libre samedi 11 juillet, on a visité le musée des Beaux-Arts, Aquarium Nancy. Mm-hmm. Et quand on était à Paris, on a fait les Invalides, la Tour Eiffel, le musée des Parfums. voilà. Et puis dimanche, le Quartier Latin, Luxembourg, une promenade avec Gilles. Et les élèves, ce qui est différent du programme d'enseignement en France et en Russie, ce que je donne toujours le devoir, je dis, si on visite quelque chose, soyez prêts de répondre à mes questions. Voilà 5 questions que je vais vous poser après. C'est pourquoi ils écoutent attentivement ce que je leur dis. Ils essaient de prendre les petits brochures pour lire, etc. Ce qu'on ne fait pas au cours d'été. C'est peut-être... je partage mon expérience.
Oui, oui.
Mais tu déjà utilises les 10 verbes irréguliers s'ils ne sont pas sages. Ça est toujours...
Ah, ça ne rigole pas avec Galina.
Ah, oui. Bah non.
Parce que tout doit être en norme avec les élèves. Mais ouais. J'aime beaucoup les cours d'été Nancy. C'est pourquoi je reviens pour la troisième fois. On a fait les cours à Loche. C'était aussi amusant. Mais c'est pour les petits-enfants. Ici, ils se sentent adultes avec l'université, les profs, la possibilité de choisir quand tu as le niveau déjà, de choisir ou bien aller écouter la civilisation, l'histoire, ou bien faire du droit, par exemple. Et on a fait les cours à Paris, mais c'est plutôt shopping, les promenades et tout ça. Ici, ils sont occupés presque toute la journée par les cours.
Et même parfois le soir avec le cinéma.
Et ils parlent français dans les magasins parce que ce n'est pas Paris et les gens ici parlent heureusement français. Oui. Quand on leur demande le chemin, on parle français ici. C'est très, très bien.
Alors, je comprends que tu dises « heureusement » parce que ça oblige tes élèves à parler français. Maintenant, je pense qu'en France, on a quand même un certain retard dans l'apprentissage des langues. Donc, cet « heureusement » que tu emploies, c'est un peu à notre corps défendant parce que je pense que les Français devraient être un peu plus performants dans le domaine des langues.
Mais non, parce qu'à Paris, quand on demande le chemin, on commence à t'expliquer en anglais.
Bien sûr. Oui, oui.
Et ici, les gens parlent français.
C'est vrai.
Un bon français.
Oui, c'est...
Avec les abréviations que...
Mais qui font partie de la langue familière, orale. Donc c'est intéressant aussi, je pense, de connaître les abréviations et la façon de parler le français de la rue, on peut dire, sans être pour autant un français grossier ou vulgaire.
Pour les jeunes, c'est très important.
Bien sûr.
D'être à l'aise avec les copains, avec les jeunes de leur âge.
Oui. Ouais.
Voilà.
D'autres choses qui ont marqué les autres personnes présentes cet après-midi ?
Donc, on a les cours le matin qui sont partagés en niveau. Moi, j'ai l'occasion de faire la traduction de français en anglais avec Monsieur Charlie. pour moi, c'est vraiment très intéressant parce que j'ai jamais fait des traductions et j'aimerais bien d'essayer d'apprendre. Bien, il n'y a pas de méthode. Monsieur Charlie toujours m'a dit tu dois travailler toi-même, mais je veux peut-être. M'améliorer, de faire la traduction plus vite. Et aussi, on fait les cours avec Michel de Presse et Civilisation, avec Cosette fait les mêmes cours que je fais. Et le droit avec Nicole, qui est très intéressant pour les gens qui font le droit. Pour moi, c'est un petit peu difficile parfois parce que je ne comprends pas. Sauf que ma mère est notaire. Hein. Je suis avec les langues. J'ai toujours été passionnée par les langues étrangères, mais pas pour le droit. et aussi, l'après-midi, on fait du théâtre. Et chaque soirée, on fait quelque chose. On est allé au cinéma, on a visité des châteaux, on a visité Paris. Et pour moi, c'était la quatrième fois que je suis allée à Paris. Et j'ai vu pour la première fois le musée de Salvador Dali à Montmartre. Et pour moi, c'était vraiment... quelque chose d'étonnant, parce que partout où il y a des musées Dali, j'essaye de les voir, mais cette fois à Paris, c'était vraiment pour moi excellent, parce que j'aime beaucoup le surréalisme.
Très bien.
Ouais.
Et Cosette ?
Oui, les cours d'été sont très occupés. Il y a pas de temps libre. J'aime beaucoup le 14 juillet parce que j'ai dormi. On se réveille le matin, on fait les cours, puis le théâtre. Il y a plusieurs choix. On peut prendre le théâtre ou bien l'atelier linguistique ou bien les conférences. On a choisi
le théâtre.
Le théâtre. Et chaque soirée, Monsieur Gilles fait ou bien le cinéma ou bien on sort sur... une autre ville, dans une autre ville, on voit des châteaux, ou bien un pique-nique.
À Lunéville, par exemple.
Ouais, hier, oui, on a vu le théâtre de l'eau, c'est très beau, très joli. Ou bien on fait un pique-nique.
La dégustation des fromages.
Oui, la dégustation.
Ouais. Ah oui, la réception à l'hôtel de ville. Ouais. Ça, c'était un moment marquant, je crois, la réception à l'hôtel
pour
de ville.
Tous.
Le cadre est magnifique, hein. Alors, je vous propose qu'on fasse une nouvelle petite pause musicale, toujours avec Benjamin Biolay, reprenant une autre chanson de Charles Trenet, cette fois, où vous allez entendre cette chanson qui est plutôt perçue comme une chanson gay, habituellement. Là, elle apparaît comme beaucoup plus mélancolique.
Parfois du bonheur dans la peine, mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leurs tendres 20 ans. C'est la romance de Paris. Au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. La banlieue était leur vrai domaine. Ils partaient à la fin de la semaine dans les bois pour cueillir des muguets ou sur un bateau pour naviguer. Ils buvaient aussi dans les guinguettes du vin blanc qui fait tourner la tête. Et quand ils se donnaient un baiser, oui, tous les couples en dansant se disaient: c'est la romance de Paris. Au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. C'est ici que s'arrête mon histoire. Aurez-vous de la peine à me croire si je vous dis qu'ils s'aimèrent chaque jour et qu'ils vieillirent avec leur tendre amour, qu'ils fondèrent une famille admirable et qu'ils eurent des enfants adorables, qu'ils moururent gentiment inconnus, oui, en partant comme ils étaient venus. C'est la romance de Paris. Au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu.
parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris.
C'était donc à nouveau Benjamin Biolay dans la romance de Paris. Alors, vous avez évoqué, enfin c'est Georgiana et Cosette qui ont évoqué une activité particulière au cours d'été qui est le théâtre. Il se trouve que la représentation théâtrale, a eu lieu mercredi soir. Mais comme nous ne sommes pas en direct, la représentation théâtrale, elle est à venir et elle va avoir lieu ce soir puisque nous sommes mercredi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience du théâtre, mesdemoiselles?
Bon, le théâtre, pour moi, j'ai jamais joué, donc c'est une expérience unique. Et je trouve que les pièces qu'on a sont très, très, très amusantes. Donc j'espère que tout le monde va rigoler, va s'amuser avec nous, parce que sinon, c'est pas bon. On a choisi des parodies avec Monsieur Gilles, qui est le directeur, de Camille, qui sont vraiment très amusants, mais aussi la manière qu'il a écrit les pièces, c'est un petit peu différent, je trouve, pour moi, parce que, par exemple, j'ai lu de Tarse comme Molière, et ça, c'est pas la même chose, hein. Camille, c'est vraiment très amusant. On fait des parodies comme Roméo et Juliette. Bien sûr, on a l'explorateur des Anglandais qui va être très amusant, j'espère, avec Cosette, qui est la femme de cet explorateur. Et je veux lui donner la parole parce que pour moi, je vais être la fille de Derfish Turner. Donc, j'ai pas beaucoup des rôles, mais la fille de Derwish, c'était suffisant pour moi parce que j'ai peur de parler au public. Donc, ce soir, on verra. J'espère que je n'oublierai pas les mots et que tous les gens ensemble avec nous, on va s'amuser tous et bien.
Oui, Cosette. C'est une belle expérience parce que j'ai jamais joué au théâtre, mais c'est un peu difficile d'apprendre le
rôle.
Le rôle, ouais. Oui, c'est parce qu'on n'a pas du temps. mais hier, j'ai pris mon rôle et je suis prête. Oui, comme elle a dit, Georgia, elles sont très belles. Pièce, comédie. Oui, j'aime mon rôle.
Et qu'est-ce qui vous a poussé toutes les deux à choisir le théâtre plutôt, par exemple, que un atelier linguistique ou d'écouter des conférences?
Parce que apprendre des pièces et retenir par cœur, c'est mieux que écouter parfois, parce qu'il faut que tu apprendre et retenir des mots, des lexiques, du vocabulaire. Et comme tu ne peux pas retenir sans savoir les mots, le vocabulaire, oui. Donc tu as besoin de chercher, de voir les mots et ça va être mieux. Et pour la prononciation, c'est très bon.
Oui, Georgiana.
Pour moi, c'est différent. C'était mon père qui m'a dit « Tu dois faire le théâtre ». Donc, je n'ai pas eu un choix. Parce que j'ai besoin de développer la gestique et aussi de parler au public. Si je veux devenir interprète, bien j'ai sûr. Besoin de ça. Et j'espère que ce soir, je pourrai parler sans problème. Et aussi de jouer le personnage parce que c'est difficile d'être quelqu'un différent que toi-même. C'est vraiment difficile parce que parfois on ne pense pas et on fait les mêmes gestes qu'on fait chaque jour. Donc, on ne sent pas vraiment le personnage. Et ça fait réfléchir. Donc, on doit réfléchir beaucoup pour vraiment être le personnage. Et pour moi, c'était vraiment bien parce que j'ai développé maintenant, j'ai articule et gesticule plus qu'avant. Donc, j'espère que ça va m'aider pour ma carrière au futur.
Bien sûr. Mais alors, est-ce que c'est la chose qui a été la plus surprenante ou la plus difficile dans la pratique du théâtre, de quitter sa propre personnalité pour trouver...
Ouais. Oui, pour moi, c'est très facile de retenir par cœur parce que j'ai une mémoire visuelle, donc c'est très facile. Je n'ai pas de problèmes, mais j'ai des problèmes d'être le personnage, donc d'échanger des personnalités. Je dois réfléchir un peu parce que parfois, j'ai dit mon rôle et je suis pas le personnage, c'est seulement la personne, c'est moi qui parle, qui lire bien, ou parfois c'est difficile parce que j'ai jamais joué le théâtre, donc je sais pas comment être quelqu'un différent que moi-même.
Et Cosette, alors, qu'est-ce que dans cette approche du travail théâtral, qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile ou le plus original, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce travail?
Oui, puisque...
Parle bien près du micro.
Pardon. Puisque ce sont des pièces comédiennes, donc tu dois faire des actes, des bêtises pour que les gens...
Rient
et comprennent, ouais, ce qu'on joue. C'est le plus difficile d'être la personnage.
Et c'est quoi ta plus grande crainte alors? C'est d'oublier le texte? C'est de ne pas faire rire? C'est quoi?
Oui, c'est pas faire rire parce que mon rôle, c'est vraiment un comédien et il y a des joutes de mots. Donc, il faut que je joue bien pour que tout le monde comprenne ce que je fais.
Mais je pense qu'il n'y aura aucun problème là-dessus. Alors, je voudrais redonner une dernière fois la parole à tout le monde, peut-être, pour quelques mots de conclusion. Voilà, ce programme d'été de 4 semaines touche à sa fin. Peut-être, simplement, pourriez-vous nous dire, les uns les autres, qu'est-ce qu'il va vous rester de ce séjour à Nancy? La semaine prochaine, vous serez chez vous et vous allez repenser peut-être à ce séjour. Qu'est-ce qu'il va vous rester? Qu'est-ce qui va dominer dans ce que vous avez vécu pendant ces 4 semaines?
Moi?
Eh bien, Galina,
comme, oui. Je suis aborigène déjà de Nancy, j'espère de revenir parce que l'ambiance des cours d'été pour les adolescents, c'est ce que nous avons besoin.
Oui.
Et c'est pourquoi peut-être si je prenais les cours, peut-être c'était un peu fatigant pour moi. Mais comme je suis pour la 3e fois ici, j'ai écouté déjà presque toutes les conférences, tout ça. Les enfants sont contents, c'est le principal. Presque toutes sont en bonne santé, sauf une fille qui joue aujourd'hui et ce soir au théâtre, mais qui va jouer malgré sa fièvre, parce que c'était son rêve de jouer sur scène. Et voilà, tout le monde est content, ils ne veulent pas quitter Nancy, ils ne veulent pas revenir à la maison. Et c'est le principal, c'est-à-dire le but est obtenu parce bien que nous sommes contents et voilà, on espère de revenir encore quelques fois.
Ben, on espère vous accueillir encore souvent.
Merci.
Alors, c'est vrai que le cours d'été est ouvert aux adolescents et c'est le cas des élèves que tu accompagnes. La majorité, je crois, de nos participants a autour d'une 20aine d'années, comme ces demoiselles. Mmh. Et puis, nous avons même des personnes retraitées qui viennent par amour pour la langue française. Charles, peut-être, une autre conclusion?
Comme les étudiants de Galina, j'ai nullement envie de repartir chez moi. Je voudrais rester à Nancy, mais à défaut de ne pas pouvoir rester, bon, je compte revenir l'année prochaine. Et puis, je vais retenir de cette session le fait que nous avons une très, très bonne promotion, beaucoup d'étudiants avancés qui ont fait de très bons progrès en français. C'est toujours satisfaisant pour un professeur de voir progresser ses étudiants. Et aussi, comme toujours, c'est l'occasion de rencontrer des gens de diverses parties du globe. Et c'est une des choses, l'une des raisons principales pour lesquelles j'adore les cours d'été.
Merci Charles. Pour terminer, il nous reste quelques secondes. Georgiana, Cosette, le mot de la fin.
J'espère que chaque année je puisse venir à Nancy. J'ai beaucoup aimé les cours d'été.
Tu maîtrises parfaitement le subjonctif.
Oui, il faut. Parce que c'est douteux. Chaque moment ici, ça va être dans ma tête chaque jour parce que vraiment c'est inoubliable.
D'accord, merci beaucoup.
Et moi, je vais rester avec l'amitié de Cosette parce que j'étais avec elle chaque jour et aussi les connexions et des relations avec les profs qui peut-être on peut revoir ici à Nancy.
Mais ça sera avec grand plaisir.
Ouais.
Merci à vous d'avoir choisi Nancy. Merci d'être venu participer à cette émission Pépinière de talent sur 90.7. Gilles Losseroy, je vous dis à très bientôt et un très bel été à tous.